Je suis à même le sol dans le salon de ma maman, en train de trier ses affaires, quand je tombe sur une simple pochette cartonnée avec mon prénom dessus. La découverte de son contenu sera pour moi un véritable électrochoc. Elle me donnera l'envie plus que jamais de me dépasser et de faire d'Aircall une entreprise leader sur son marché. Maman est décédée quelques jours plus tôt, le 31 décembre 2018. Elle était hospitalisée depuis plusieurs mois, victime d'un AVC qui l'avait laissée à moitié paralysée. Son accident s'est produit alors que j'étais au bureau de New York d'Aircall. J'étais en réunion et je voyais mon téléphone sonner avec insistance avec l'indicatif français. Je ne décroche pas tout de suite, puis je prends. Un médecin au bout du fil m'annonce la mauvaise nouvelle. Je rentre quelques jours plus tard à Paris en catastrophe. Quand je la découvre sur son lit d'hôpital, dans cet état, paralysée de la moitié du corps et du visage et pouvant à peine parler, je ne peux retenir mon émotion. Nous fondons en larmes, tous les deux. Nous n'avions jamais pleuré ensemble, et pourtant, en plus de 30 ans, nous en avons eu des occasions de pleurer. Je suis dévasté, et surtout complètement perdu. Je sais ce qu'est un AVC, mais je ne prends pas encore vraiment la mesure de ce que cela implique. Les médecins restent vagues et ne me donnent pas plus d'indications que ça. Ils m'annoncent également que maman souffre d'un cancer généralisé. Elle a déjà eu 2 cancers du sein coup sur coup, en 2010 et en 2016. Très rapidement, les médecins m'expliquent qu'elle ne va pas pouvoir rester à l'hôpital, car pour traiter un AVC, il faut des infrastructures adaptées. La seule solution possible est l'EHPAD, et je n'ai pas la moindre idée de par où commencer. Tout s'écroule autour de moi. Je suis perdu. On ne me donne aucune solution. Je vais devoir me débrouiller tout seul. J'appelle une dizaine d'EHPAD, j'en visite certains. J'essaye de trouver le lieu idéal pour héberger maman, mais ce n'est pas évident. Les lieux ne me plaisent pas et ressemblent plus à des petits hôpitaux glauques et mal entretenus qu'à des maisons médicalisées avec jardin comme je l'imaginais. Elle n'a que 66 ans. La moyenne d'âge est de 87 ans en général, et je veux le mieux pour elle. Début décembre, l'hôpital m'annonce qu'elle va être transférée en soins palliatifs, afin que sa douleur puisse être mieux prise en charge. Je ne comprends pas vraiment ce que cela signifie, car on ne m'explique rien de plus. Je me dis que cela me donne davantage de temps pour lui trouver le bon hébergement. Je lui rends régulièrement visite. Son état de santé ne s'améliore pas. Le soir, elle m'appelle souvent en pleurant, en me disant qu'elle souffre. C'est une période très difficile pour moi, car je ne sais pas trop comment gérer la situation ni comment je peux l'aider. Le jour de Noël, je vais la voir au centre palliatif où elle est hébergée, afin de lui offrir un petit cadeau et quelques chocolats. Malheureusement, elle ne peut pas les manger, car elle a des problèmes de déglutition. En sortant du centre médical, je suis bouleversé, et sur un coup de tête, je décide de prendre ma voiture, de rouler toute la nuit pour aller rejoindre des amis qui sont dans un magnifique chalet à Val d'Isère pour fêter la nouvelle année. Le matin du 31 décembre, il est 7 heures du matin quand le centre de soins palliatifs m'appelle.
« Votre maman ne va pas bien. On ne sait pas si elle va passer la journée. Voulez-vous lui parler, lui dire quelques mots ?»
Je suis sous le choc, prêt à prendre le volant pour remonter la voir à Paris. Mais l'infirmière m'en dissuade.
« Ne prenez pas le volant maintenant. Ce ne serait pas prudent. Je vais mettre le haut-parleur. Vous pourrez lui parler. »
À l'autre bout du fil, je n'entends que des gémissements. Nous fondons à nouveau en larmes tous les deux. Je lui parle, je lui dis que je l'aime et que je serai à jamais à ses côtés. Je lui demande de s'accrocher comme nous l'avons toujours fait ensemble. Mais l'appel est soudainement coupé. J'essaye de rappeler, en vain. Soudain, je sens mon téléphone vibrer dans ma poche. Mon cœur se serre, c'est le même numéro que tout à l'heure. Je décroche, au bout du fil, l'infirmière m'annonce que maman est partie. Je me lève, je vais prendre l'air, chercher le petit déjeuner pour mes amis sortis la veille.
Je marche sans vraiment savoir où je vais. Les rues sont très enneigées. J'ai les larmes qui coulent sur mes joues. Je regarde les vitrines des magasins et je fais défiler toute ma vie. Tous les moments qu'on a vécus avec maman. Les bons, les mauvais et tout ce que cela m'a appris. Je m'assois à même le sol, en combinaison de ski. Je suis bouleversé et je réalise par la même occasion que ma vie ne sera plus jamais la même. Je n'ai plus de famille. Je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Le reste du chemin, je vais devoir le faire seul. Mes larmes coulent sans interruption sur mon visage et forment une cicatrice indélébile. Une trace qui m'endurcira une fois de plus et me permettra de n'avoir peur de rien ni de personne. C'est un jour festif pour tout le monde, mais moi je suis en deuil. J'éprouve aussi une sorte de soulagement assez étrange, car enfin, elle ne souffre plus. Pour toi, maman. Les événements s'enchaînent ensuite très vite. Je rentre à Paris le lendemain du Nouvel An et je me lance dans les formalités administratives liées au décès de maman. Elle a beaucoup de dettes. Je comprends aussi qu'il faut que je m'occupe rapidement de son appartement pour le mettre d'abord en location, le temps de régler la succession, puis en vente. C'est là, en faisant du tri dans ses papiers, que je découvre cette fameuse pochette cartonnée avec « Jonathan » écrit dessus. À l'intérieur, une dizaine d'articles du Figaro, des Échos, mais aussi de magazines étrangers comme Bloomberg ou Forbes, portant sur mon activité et sur Aircall. Nos différentes levées de fonds, nos ouvertures de bureaux dans le monde, nos lancements de produits, nos nouvelles fonctionnalités. Je suis abasourdi. Maman a pris le soin de découper tous ces articles, de les ranger dans cette pochette et je ne l'ai jamais su. Elle, qui n'utilisait jamais Internet, avait même imprimé des articles publiés sur le web. J'ai le cœur brisé. Je me rends compte qu'elle était fière de moi et que, derrière sa carapace, se cachait une maman qui aimait son fils. Nous avons toujours eu des relations assez conflictuelles. Et ces dernières années, j'avais beaucoup de mal à avoir une conversation posée avec elle. Elle était dépressive et souvent malade. Elle avait aussi beaucoup de mal à se déplacer. Ses articulations faiblissaient énormément. J'essayais parfois de lui raconter mon travail, mais c'était compliqué car je sentais un vrai décalage entre nous. Je me souviens de ce jour de 2017 où je l'avais invitée à venir visiter les nouveaux bureaux d'Aircall. À l'heure du rendez-vous, elle m'a appelé pour me demander « Mais t'es où ? Je suis là, en bas, avec un monsieur, mais il me dit qu'il te connaît pas !» J'ai alors compris qu'elle avait poussé la porte de la boutique de téléphone portable installée en bas de nos bureaux. Elle croyait que c'était là que je travaillais. « Mais tu m'as dit que tu vendais des téléphones !» Quand je l'ai emmenée voir mes vrais bureaux, à l'époque un petit open space de 350 mètres carrés, très lumineux, elle n'a rien dit. Mais je crois qu'elle a compris que je faisais quelque chose de sérieux. J'aurais tellement aimé pouvoir lui montrer les bureaux que nous avons ensuite eus. 2000 mètres carrés à Paris, 1500 mètres carrés à New York, 600 mètres carrés à Sydney, à Londres, à Berlin. Lors de cette visite, elle m'a posé un grand nombre de questions. Je voyais bien qu'elle essayait de s'intéresser à ce que je faisais, mais je pense que cela n'a jamais été très clair pour elle. Maman a eu une vie très difficile. Née en 1952 dans une famille pauvre en Bulgarie, alors sous le bloc soviétique, elle a vécu une enfance à la dure, dans un pays gangrené par le communisme et la corruption. Sa vie n'a pas été toute rose. Et comme elle me le rappelait souvent, elle n'a eu qu'une paire de chaussures pendant près de 6 ans, jusqu'à ses 18 ans. Au début, les chaussures étaient évidemment trop grandes pour elle. Puis au fur et à mesure des années, comme ses pieds grandissaient, elles ont fini par être à peu près à sa taille. C'était sa maman qui les lui avait achetées pour son 12e anniversaire, quelques pointures au-dessus dans un souci d'économie future. Lorsque j'osais réclamer des nouveaux vêtements, elle me rappelait cette histoire en me répétant que pendant toute son enfance, elle avait subi les railleries de ses camarades d'école qui se moquaient d'elle parce qu'elle portait des chaussures de clown dans lesquelles elle flottait. Depuis sa plus tendre enfance, maman ne supporte pas cette vie rythmée par le froid, la faim et le communisme.